Variation en noir. Roman noir sur Radio PFM. Et littérature policière au pluriel. Variation en noir dans Variation, le dernier vendredi du mois sur Radio PFM. Variation en noir, le rendez-vous des littératures policières et donc le rendez-vous avec 813, l'association des amis des littératures policières et en particulier avec son président Hervé Delouche. Hervé Delouche en direct de Paris avec nous au téléphone et aujourd'hui un numéro spécial trophée 813. Alors Hervé, donc bien pour ce mois, une activité importante au niveau de 813, c'était l'Assemblée Générale le week-end dernier, c'était le dimanche 24 à l'occasion du salon Paris Polar organisé par l'association Paris Polar et la mairie du 13e arrondissement de Paris, si j'ai bien compris.
Oui, c'est ça, tout à fait.
Et donc, à cette occasion, il y a eu l'Assemblée Générale de l'association, puisque 813, rappelons-le, est une association, Association des Amis des Littératures Policières. Et à l'occasion de cette Assemblée Générale, c'est une tradition, eh bien, sont décernés les trophées 813 qui récompensent un certain nombre d'ouvrages.
Oui.
Alors, Hervé, première chose, donc, à quoi correspondent ces trophées? Comment sont-ils, comment on choisit hein, le lauréat 813?
Ben, les trophées, ils ont cette originalité, c'est que depuis le début, c'est-à-dire la première fois où il y en a eu, c'était en 1981, ce qui nous rajeunit pas, les trophées 813, c'est un prix polar, mais qui est un prix un prix de lecteurs et de nombreux lecteurs passionnés de polar, puisque peuvent voter chaque année tous les adhérents de l'association qui le souhaitent. Cette année, il y a eu par exemple 150 adhérents qui ont voté. Alors il y a un premier tour où les gens votent. Oui, il faut que je précise, il y a 4 trophées actuellement différents. Il y a le trophée du meilleur roman français, celui du meilleur roman étranger.
Et donc puis, en polar, bien sûr. Enfin,
en polar, ouais, bien évidemment, ouais. Polar, roman noir, voilà. Et puis il y a un trophée de la BD et il y a le prix Maurice Renaud sur lequel, je crois, nous reviendrons. Voilà. Allez.
Et il n'y a pas le trophée du meilleur traducteur?
Alors, il y a un trophée du meilleur traducteur qui accompagne, qui est décerné au traducteur du roman étranger qui a été imprimé.
Automatique.
Un automatisme.
Voilà, donc 4 trophées.
Oui.
Donc, les adhérents qui votent. Un premier tour, si j'ai bien compris, avec plusieurs bouquins proposés par chacun des adhérents.
Voilà, et puis il en reste 5 au deuxième tour dans chaque catégorie et les gens retournent aux urnes.
Voilà, donc c'est un prix qui est décerné par des lecteurs, des amateurs de noir, des écrivains, enfin des gens qui composent l'association 813.
Oui, c'est pour ça qu'il est apprécié, parce que ça n'est pas un jury professionnel, mais c'est un jury de nombreux lecteurs qui s'y connaissent, et les éditeurs et avant tout les auteurs, ce qui est le plus important, sont très très contents et souvent honorés de l'avoir, et c'est ce que d'ailleurs a dit publiquement de manière très appuyée le lauréat français de cette année.
Alors on va pas dire tout de suite son nom.
Non.
On va attendre un peu. Hein.
Allez.
Voilà.
On va faire dans l'autre sens. Okay.
Voilà. Donc on va commencer par le prix Maurice, enfin le trophée. Hein. On parle bien de trophée 813,
oui,
le trophée Maurice Renaud. Alors Maurice Renaud, petite explication.
Oh ben ce trophée, il a pris ce nom-là parce que Maurice Renaud, c'était un journaliste et ça a été surtout le fondateur d'une revue qui a beaucoup compté dans les années 50-60 qui s'appelait Mystère Magazine, qui publiait des auteurs français et surtout beaucoup de traductions d'auteurs, notamment anglo-saxons. Et par ailleurs, il avait aussi fondé les éditions Opta, qui ont fait des anthologies du mystère, qui ont fait aussi des collections de fantastique, science-fiction, enfin voilà. Donc c'est un hommage qui est rendu à ce précurseur, et c'est un prix qui récompense ce qu'on considère comme la meilleure étude ou le meilleur travail critique de l'année. Voilà. Sur le genre polar.
Toujours. Alors, donc, 2013
Eh bien, 2013, c'est une revue qui est apparue en 2007 et qui s'appelle L'Indique, qui est fait par une association bretonne, enfin de l'ouest de la France, qui s'appelle Fondu au Noir, et voilà, qui en est à son 16e numéro et qui en général, en fait, qui a des rubriques régulières et qui en général a aussi une thématique propre à chaque livraison. Là, il y a eu, ça peut être la prison, le western, voilà. Et le dernier numéro, le numéro 16, c'est sur l'enfance.
D'accord,
donc c'est aux activités de cette revue qu'il a été.
Attribué le trophée 813 Maurice Renaud, qui récompense donc une revue, une étude. L'Indique, donc, il y a peut-être un site, on peut trouver facilement les coordonnées de cette revue.
Il y a un site de l'association Fondu au Noir, voilà, sinon on trouve l'Indique, je pense, sur des festivals, dans certaines librairies dédiées au polar, mais je pense que le plus simple c'est d'aller sur son moteur de recherche, taper Fondu au Noir et tous les renseignements concernant l'Indique s'y trouvent.
Alors, donc, premier trophée, l'Indique.
Oui.
Deuxième trophée qui a été décerné dimanche dernier, dimanche 24 novembre, le trophée 813 de la BD.
Alors, la BD, c'est un dessinateur qui est dans le paysage depuis maintenant un certain temps et qui est très apprécié, qui a fait des choses dans des domaines très divers, et c'est Manu Larcenet pour le troisième volume d'une série qui s'appelle Blast, qui est une série polar. Manu Larcenet, dans des genres différents, c'est aussi lui qui avait fait la série Le Combat Ordinaire ou Le Retour à la Terre, enfin voilà, c'est édité chez Dargo et c'était un trophée qui fait plaisir parce que c'est un gars de grand talent.
Voilà, donc Blast, donc 3,
Blast, hein,
le
oui,
Blast 3,
absolument.
De Manu Larcenet chez Dargo. On en arrive, alors le trophée du roman francophone, on va l'annoncer tout de suite, Hervé, mais on ne développera pas.
Non,
on
ne développera pas pour une... car le développement va venir après, je crois.
Voilà, c'est ça, hein, c'est... vas-y, je te laisse annoncer le lauréat 2020.
Eh bien alors, le lauréat de cette année est de très... Comment dire, il a largement dominé en nombre de voix au deuxième tour. C'est le dernier Lapon d'Olivier Truc chez Anne-Marie Métellier, qui est un premier roman qui se passe en Laponie. Mais on va tout savoir avec l'interview d'Olivier Truc que tu as réalisé.
Voilà.
Tu vas nous...
Puisque j'étais avec vous dimanche dernier, j'ai assisté à tout ça et donc j'ai pu interviewer Olivier Truc, et ce sera donc dans la deuxième partie de cette émission.
Voilà, alors, pour un premier roman, ça faisait vraiment plaisir et on était content aussi que Olivier, qui était sur le salon, puisqu'il y était invité bien avant qu'on sache qu'il aurait le trophée, a manifesté sa joie. Voilà.
Je suis témoin. Il était aussi très content parce que le trophée comme récompense, il y avait une belle bouteille une belle bouteille de vin, si hein, mes souvenirs sont bons.
D'un Côte du Rhône, voilà. Qui avait été testé par des amis de l'association. Voilà, absolument.
Ouais. Bon, nous, malheureusement, on n'a pas pu le goûter, mais.
Eh non. Ouais. Mais il y a une chose à dire quand même, parce que ça fait plaisir, c'est que Olivier Truc, il a déjà remporté un certain nombre de prix hein, depuis que son livre est sorti.
Je crois que c'est son 14e prix pour
ce
même roman.
Et dont des prix comme le prix Mystère de la Critique, le prix Quai du Polar. Mais il y avait pour lui, et il me l'avait dit quand je lui avais annoncé au téléphone, une mention spéciale pour celui-là. C'était le fait que, d'abord, il avait découvert ce qu'était 813 et tout le réseau d'activités que c'était, et le fait que ce soit un prix, qu'on disait tout à l'heure, donné par des lecteurs passionnés et fins.
Connaisseurs.
Ça le touchait beaucoup.
Alors, on va entendre hein, Olivier Truc dans un instant, mais oui. Avant cela, et avant de te quitter, donc Hervé, tu as une minute, un top chrono. Pour nous annoncer le 4e trophée, donc le trophée du roman étranger.
Le trophée du roman étranger, oui. Il est allé à Le Diable tout le temps de Donald Ray Pollock chez Albin Michel. Donald Ray Pollock, il avait déjà donné un recueil de nouvelles qui s'appelait Knockemstief, et là c'est son premier roman. C'est un gars étonnant puisqu'il a il a passé plus de 30 ans dans une usine de pâte à papier, enfin a travaillé dans une usine de pâte à papier dans le sud de l'Ohio, où est la bourgade de Knockemstief, où il vivait et à côté de laquelle il est toujours. Et puis il s'est mis à l'écriture et c'est Le Diable tout le temps. C'est un roman dans la veine des Jim Thompson ou Cormac McCarthy. On est face à on est dans les années 50 et puis vont se croiser des personnages décalés, des losers, des laissés pour compte. On va trouver William Russell qui est un rescapé de la terrible guerre du Pacifique. Il est hanté par des visions absolument terrifiantes. On va trouver un couple étrange qui écume les routes, qui enlève et prend en photo et tue de jeunes autostoppeurs. On va trouver un prédicateur qui pense qu'il réveille les morts et qui mange des insectes. Enfin, des personnages, justement un peu comme chez Thompson. On va au plus noir des personnages, mais c'est ce que veut faire Donald Ray Pollock, qui par ailleurs est un homme absolument charmant, un petit bonhomme très sympathique, mais qui disait dans la revue 813, à quoi bon un roman de plus si on ne va pas chercher au plus noir de chacun d'entre nous, si on ne fouille pas les failles, les fêlures. Voilà, bon cru cette année que trophée 813 là.
J'ai l'impression que le président de 813 que tu es, donc qui vote hein, comme tous les autres adhérents, a voté pour ce roman.
Alors le président ne communiquera pas son vote, de toute façon c'était très compliqué parce que pour parler, y compris de mes propres goûts, la sélection des romans étrangers était absolument excellente puisqu'il y avait aussi bien, y compris des livres que j'aime beaucoup, il y avait Ron Ra, il y avait Ron Rash, Benjamin Whitmer, Deon Meyer, enfin c'était quand même une bonne
sélection. Alors on peut indiquer
une très belle sélection avec justement, même si je ne donne pas mon vote, un choix extrêmement difficile.
D'accord. Voilà. On peut indiquer donc à nos auditrices, nos auditeurs, toutes ces informations, hein, donc les livres sélectionnés, les trophées, revenir sur les trophées, on les trouvera sur le blog
Il suffit de taper blog 813, tous les résultats ont été mis, comme on les connaissait un peu avant forcément, tous les résultats ont été mis en ligne au moment où ils étaient annoncés sur le salon.
Voilà, bah écoutez Hervé, voilà. Merci beaucoup.
Merci à toute l'équipe.
Voilà, et on se redonne rendez-vous dans un mois.
Voilà, et je viendrai à Arras.
Ça marche, c'est noté, allez, au revoir.
Bonne fin de journée, salut. Au revoir. My gut, my heart, and
Olivier Truc, le trophée 813, qui vient s'ajouter à de nombreux autres prix. A priori, c'est le 14e, qui est du Polar, qui est Mystère de la Critique et bien d'autres. En plus, pour un coup d'essai, puisque c'est votre premier roman, c'est un coup donc réussi. Mais en plus particulièrement, ce trophée 813, ça représente quoi pour vous ?
C'est important parce que je suis totalement nouveau dans le milieu du polar. Le dernier Lapon est mon premier roman. Il est sorti en septembre 2012. Ça veut dire que je découvre ce monde du polar depuis un peu plus d'un an maintenant. Et c'est vrai que les adhérents de 813, je les vois partout depuis que je tourne. J'ai eu la chance de pouvoir participer à plusieurs festivals en France depuis plus d'un an, et je vois toujours partout des adhérents de 813 qui sont là à fureter, à discuter, à poser des questions, à se passionner. Enfin, on sent vraiment que c'est une association qui est très vivante et pleine de gens passionnés. Donc recevoir le prix d'une association comme elle, avec en plus plus de 700 adhérents, c'est très important. Ouais.
Alors justement, vous l'avez dit, hein, c'est votre premier roman, vous êtes journaliste, si j'ai bien compris, correspondant pour le journal Le Monde en Europe du Nord, plus particulièrement en Suède. Alors pourquoi avoir choisi d'écrire un polar et non bon, un roman plus classique ou un récit journalistique, ou même peut-être une enquête journalistique sur cette contrée, celle qui est au centre de votre roman, La Laponie? Pourquoi avoir choisi le roman noir?
C'était pas le premier choix, en fait, pour être tout à fait honnête. Le premier choix, c'était vraiment quand j'avais commencé à faire des reportages dans le Grand Nord. Depuis déjà plus d'une quinzaine d'années, je traîne là-haut. J'avais réalisé d'abord en 2004 une série de reportages pour Libération, pour qui je travaillais à l'époque. C'était une série de 6 papiers pour une série d'été comme ça sur la police des Rennes. Voilà, des petits reportages, des petits faits divers. Il y avait un portrait de flic. Il y avait voilà des histoires comme ça. Et après ça, un producteur de télévision qui avait vu cette série dans Libération m'avait appelé à la fin de l'été 2004, m'avait demandé si je voulais en faire un documentaire pour la télévision. Ce que j'ai fait par la suite, j'ai fait un 52 minutes pour France 5, donc j'ai repassé 2 mois là-bas dans le Grand Nord à suivre les patrouilles de la police des Rennes sur le terrain, donc à vivre avec eux, hein. Je vivais jour et nuit avec eux. Dans certains cas, quand on partait en patrouille dans la toundra, on dormait dans les petites cabanes, là on partageait tout. Et donc j'ai récolté une masse de détails, de personnages comme ça, et je sentais que même après ce documentaire, j'en avais pas fini avec ça. J'avais encore plein d'histoires à raconter que j'avais pas pu caser dans mon documentaire. Donc là, mon premier réflexe, ça avait été justement d'en faire plutôt un bouquin de reportage, en fait, des espèces de chroniques de la police des Rennes. Et puis j'ai commencé à jouer comme ça un petit peu avec les personnages, à imaginer quelle thématique je voulais aborder à travers cette police des Rennes. Et puis j'ai dérapé sans le sentir vraiment, sans savoir très bien comment, vers le polar, ce qui s'explique parce que j'avais une matière qui était extrêmement policière. J'avais des personnages de flics, j'avais une matière policière. Donc ça s'est retrouvé assez facilement, assez logiquement, finement et naturellement, à devenir un polar. Mais c'est vrai que j'avais pas du tout, dans un premier temps, imaginé, je me voyais pas du tout comme un écrivain de polar.
Mais alors justement, vous l'avez évoqué déjà à plusieurs reprises, la police des Rennes, ça ne s'invente pas. Quand on est un lecteur ici en France, on a même, on n'imagine pas que ça puisse exister, cette police des Rennes. Et d'ailleurs, bon, vous avez aussi commencé à évoquer cette question. Donc c'est un pays composé essentiellement d'éleveurs de Rennes. Et donc vous nous plongez un peu dans un western, avec du vol, en fin de compte, du vol de bétail. Et puis bon, alors là, c'est pas le shérif, mais c'est la police des Rennes. Alors, donc, on l'a compris, mais passer de la police des Rennes, d'une enquête journalistique, des reportages comme vous les avez fait, à vraiment une intrigue policière, là, le déclic.
Je sais plus très bien, honnêtement.
Et ce vol, justement, hein, de Rennes, c'est dans les faits. C'est aussi, ce sont des faits divers réguliers.
Tout à fait. Les vols de Rennes, c'est quelque chose qui, c'est le type d'histoire assez banale qui se passe là-haut. Il y a des vols qui sont à la fois des vols entre éleveurs et puis des vols de non-sami, de non-lapon, de norvégiens ou suédois qui se servent un peu sur la bête, on va dire, à l'automne notamment, parce que là la viande est la meilleure, mais un peu à toute saison s'il le faut. Donc du vol de Rennes, il y en a. D'ailleurs, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle la police des Rennes a été créée en 1949, juste après la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, parce que la Laponie avait subi la politique de la terre brûlée de la part des Allemands sous la poussée des Soviétiques, et les Norvégiens qui n'avaient pas été évacués, qui restaient là, crevaient de faim et donc volaient les rennes pour survivre. Et donc c'est pour pallier à tous ces vols que la police des Rennes avait été constituée en 1949. Moi, après, c'est vrai que la raison pour laquelle je me suis intéressé à cette police des Rennes, c'est pas uniquement pour le côté western, c'est pas uniquement pour ça, c'est parce que grâce à cette police des Rennes, ça me permettait de pénétrer dans la société du Grand Nord sous un angle totalement insolite et original. J'ai réagi souvent un petit peu avec énervement à la façon dont beaucoup de reportages ou de magazines peignaient un petit peu ce Grand Nord avec un peu les lapons pour touristes, je vais dire, un peu une image un peu sur papier glacé comme ça, on les montrait toujours de la même façon avec leur haine, sympathique, mais pas, ça ne correspondait pas à la réalité que je connaissais moi, qui était celle de conflits avec des conflits sociaux entre d'un côté les éleveurs de Rennes, de l'autre des paysans ou des agriculteurs, des forestiers. Ça se terminait dans des procès. C'est comme ça que moi je suis entré dans ce milieu-là, par le biais de procès entre éleveurs et paysans. Et avec la police des Rennes, en fait, c'était un prétexte pour moi, à travers des affaires de petite police, d'éclairer en fait toute cette réalité sociale du Grand Nord sous un jour qui n'est pas celle qui est peinte en général dans les magazines ou dans les documentaires.
Alors justement, réalité sociale, mais même plus, quand on lit votre livre, on pense par exemple à Tony Lehrmann et ses policiers navarro, parce que donc les éleveurs de Rennes sont essentiellement des lapons, des samis, comme ils s'appellent eux-mêmes. Donc vous revendiquez alors cette dimension, on a parlé de romans, de polar ethnologique, vous revendiquez ça aussi.
Ah, je peux pas le nier, même si j'ai pas lu Tony Lehrmann d'ailleurs, ce qui est assez marrant, parce que quand j'ai commencé à travailler sur ce projet de polar, tous mes amis amateurs de polar me disaient, mais il faut que tu lises Tony Lehrmann, tu vas voir, avec ses policiers navarro, c'est extraordinaire, enfin c'est vraiment, regarde. Alors je m'étais empressé d'aller en acheter, je m'étais renseigné pour savoir quels étaient les meilleurs, je les avais achetés, j'avais lu les quatrièmes de couverture et je m'étais empressé de les cacher au fin fond de mon armoire pour justement ne pas être, pas avec la crainte, à tort ou à raison, d'être trop influencé par lui, tant je sentais qu'il y avait une matière qui était de fait très proche. Donc je ne les ai toujours pas lus, je les lirai le jour où j'en aurai terminé avec ma police des Rennes.
Oui, alors donc justement, Clément, qui est le policier, votre policier, on va le revoir donc.
Tout à fait. Clément et Nina, sa collègue. Là, je suis en train de travailler actuellement à la suite du dernier Lapon, une suite indépendante, mais on va retrouver Clément et Nina. qui est un couple que j'aime bien, un couple de, hein, ils sont pas couple dans la vie, hein, ils sont couple au boulot, qui est un couple que j'aime bien parce que ils ont des, c'est un couple très contrasté, c'est-à-dire que Clémette lui est un homme qui a un peu plus de la cinquantaine, qui est un Sami, il est d'origine lapone, lui. Pas très à l'aise avec son identité, il faut bien le dire. Donc, il se retrouve dans ce milieu-là où, qui est avec beaucoup de règles non écrites, où il y a une hiérarchie non écrite qui est très claire, en même temps très claire. C'est-à-dire que les éleveurs de rennes sont un peu l'élite, sont la caste supérieure des Samis. Et lui vient d'une famille qui a été éjectée de ce milieu des éleveurs de rennes. Donc, c'est un rapport compliqué pour lui. Et à côté de lui, on a Nina, cette petite fliquette blondinette qui vient du sud de la Norvège. Et comme tous les gens qui viennent du sud de la Scandinavie, elle ignore tout de la culture Sami. Donc, elle arrive finalement, elle, dans ce milieu-là, dans ce pays-là, avec nos yeux à nous de Français, c'est-à-dire des yeux candides, ignorants de ces réalités. Donc ça permet d'avoir ce double éclairage à travers eux.
Alors le polar nordique a le vent en poupe hein, depuis quelques années, on va pas citer, hein, mais Millennium, etc. Vous avez peut-être essayé aussi de démontrer qu'on pouvait écrire du polar nordique en n'étant pas originaire de ces pays du Nord, hein, puisque vous êtes quelqu'un qui vous vivez là-bas depuis un certain nombre d'années, mais vous n'y êtes pas né. Et donc quelque part, c'est montré qu'on peut écrire du polar sur un pays, une région, sans en être originaire.
Oui, mais enfin, mon défi était, honnêtement, il n'était pas à ce niveau-là. C'est-à-dire, je me suis pas dit, je vais leur montrer. Parce que d'abord, pour être tout à fait honnête une fois de plus, j'ai lu très peu de polars scandinaves. Donc, j'en ai lu quelques-uns, bien sûr. J'en ai vu des adaptations à la télévision. Les adaptations, par exemple, des livres de Cheval et Valeux avec l'inspecteur Beck, qui sont les pères et mères du polar scandinave. Voilà, c'est les premiers films que j'ai vus en arrivant en Suède il y a 20 ans. Mais je ne me suis pas dit, je vais leur montrer tout simplement parce que pour moi, c'était pas, je ne me voyais pas vraiment comme un écrivain de polar, donc je ne m'étais pas dit, voilà, je vais leur faire un bras d'honneur, je vais leur montrer, je vais leur dire. C'est un peu, je suis encore un an après la sortie du livre, un peu à m'étonner un petit peu de tout ça, parce que je n'étais pas prédestiné à ça. La seule chose qui m'a prédestiné finalement à ça, c'est que c'est ma passion pour écouter les histoires des gens, où que ce soit, et c'est ça qui m'a guidé. Quand je suis en reportage, je fais de très longues interviews, j'écoute beaucoup les gens, et je sais que ma première source d'inspiration, elle n'est pas dans les auteurs scandinaves, elle est dans mes carnets de reportage.
Oui, et puis en même temps, ces auteurs, enfin, à ma connaissance, hein, n'ont pas traité dans leurs romans les plus connus la population que vous nous faites découvrir. Hein. C'est du polar classique, en fin de compte. Hein. Ils sont pas allés vers la Laponie.
Oui, et c'est vrai que c'est une source d'étonnement pour moi, d'ailleurs, que les auteurs scandinaves utilisent aussi peu le formidable potentiel de récit, de saga et d'épopée que contient ce Grand Nord, parce que pour moi c'est une vraie réserve à sujet magazine, à épopée, à personnages rudes et inoubliables. Donc c'est, je pense qu'il doit y avoir en partie peut-être une part de mauvaise conscience des Scandinaves vis-à-vis de la façon dont leur pays ont traité la population Sami. C'est vrai que c'est un sujet un peu tabou là-haut. C'est pour ça aussi que je suis très curieux de savoir comment le dernier Lapon sera accueilli là-haut quand il sera traduit en suédois, en norvégien.
C'est prévu ?
C'est prévu, il sera traduit, il sortira en principe en norvégien au mois en avril 2014 et en suédois à l'automne 2014.
Et qu'est-ce qui vous a attiré quand même dans ces pays du Nord ? Parce que quand vous avez fait le choix d'y partir, qu'est-ce qui vous a attiré ?
Une Suédoise.
D'accord, c'est clair, c'est une réponse claire et efficace. Et puis, alors dernière chose, quand même le titre, hein, le dernier Lapon. Est-ce que vous estimez justement que les Lapons, c'est un peuple appelé ou amené à disparaître ?
Le peuple lapon en tant que tel n'est pas amené à disparaître parce qu'ils sont suffisamment nombreux encore, ils sont 70-80 000. Donc je pense en tant que peuple, ils ne sont pas amenés à disparaître. En revanche, la culture lapone est menacée, réellement menacée. Et pourquoi est-ce qu'elle est menacée? C'est parce qu'on l'assimile énormément à la culture du renne, de l'élevage du renne. Or, l'élevage de renne en tant que tel est menacé à peut-être 30, 40, 50 ans par différents facteurs, que ce soit le réchauffement climatique, mais aussi la pression des compagnies minières, la pression industrielle de différents aussi de touristiques, des habitats de loisirs qui développent énormément qui morcelle énormément le territoire des pâturages. Donc en ce sens, la culture sami liée à l'élevage de rennes est menacée et se pose la question pour le peuple lapon en tant que tel, la question si on ne peut plus se rattacher culturellement au monde du renne, qu'est-ce que c'est être sami?
C'était Olivier Truc au micro de Radio PFM, interview enregistrée à Paris à l'occasion du festival Paris Polar et à l'occasion de l'Assemblée Générale 813, l'Association des Amis des Littératures Policières, et de la remise des trophées 813, puisque Olivier Truc est l'auteur de Le Dernier Lapon chez Métellier, et c'est lui qui a obtenu le trophée 813 2013 du meilleur roman francophone policier, donc décerné par cette association. Variation en noir, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve dans un mois, toujours dans Variation, le dernier vendredi du mois. Alors peut-être qu'en décembre, avec cette fin d'année toujours perturbée par les fêtes, peut-être que ce ne sera pas tout à fait le dernier vendredi. On verra ça, on vous tiendra au courant. En tout cas, on se retrouve dans un mois pour une nouvelle édition de Variation en noir.